Bonsoir Rosine Bachelot.
Bonsoir, tout seul encore.
Mais de temps en temps.
Bonsoir, bonsoir Alain. Parce que je suis là aussi.
On est trois.
Oui, mais
déjà.
Je veux dire, vous êtes unique.
On est trois, c'est déjà pas si mal.
Oui.
Alain, bonsoir, bonsoir, bonsoir Rosine. On va revenir sur ce qu'a dit Jordan Bardella. D'ailleurs, peut-être qu'on va l'écouter. Jordan Bardella, c'était ce matin sur BFM TV. Il conduit la liste du RN pour les élections européennes. Liste qui est créditée de environ 30% des intentions de vote. Donc largement devant les autres listes. Et voilà ce que dit Jordan Bardella.
Si je suis en tête des élections européennes le 9 juin prochain, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections européennes, c'est la seule élection nationale du quinquennat qui doit donc permettre aux Français de s'exprimer sur la politique du gouvernement, de faire entendre leur colère à Emmanuel Macron et par conséquent de désigner le mouvement politique qui sera chargé de préparer l'alternance. Quand on a 10 à 15 points d'écart, quand on est au pouvoir, par rapport, ça ne s'est jamais vu, hein, au parti, premier parti d'opposition, il y a un problème non pas de légitimité, mais il y a un problème de crédibilité pour la majorité présidentielle. Par conséquent, je pense, et c'est parfaitement sain, c'est prévu par nos institutions, que le président de la République n'aura pas d'autre solution que d'en revenir aux urnes.
Je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. A-t-il raison, Jordan Bardella ?
Je trouve que c'est audacieux, donc risqué. C'est audacieux parce qu'au fond, alors c'est vrai que les sondages sont totalement à sa faveur, hein. Mais il s'installe déjà quasi officiellement sur le siège, le fauteuil même du vainqueur. Alors, ça peut mobiliser, mais ça se remarque. C'est, disons que on ne peut pas dire qu'il pêche par modestie.
Il est trop sûr de lui.
C'est un risque. Bon. Ensuite, il dramatise l'enjeu. Alors, c'est vrai que les élections européennes, souvent, ça ressemble à des élections indicatives plutôt que décisives. Lui, il en fait une élection décisive, puisque selon lui, ça peut mener à une dissolution, à un changement de gouvernement, à un renversement de majorité.
Bon, ça, c'est
là,
du jeu,
là,
ça.
Là aussi, oui, mais ça ne s'est pas dit tellement souvent à l'occasion d'élections européennes, dans mon souvenir en tout cas. Mais là aussi, ça peut attirer. Bon, et puis il fixe un enjeu. L'enjeu qu'il fixe, c'est si on gagne aux européennes, on peut être au pouvoir dans quelques semaines. Donc tout ça est mobilisateur. En revanche, ça peut énerver parce que ça peut paraître présomptueux. Bon, c'est même inévitable. Deux, ça peut faire peur. Parce que les gens peuvent se dire, attention, si c'est pour une dissolution, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on a vraiment envie que le Rassemblement national soit au pouvoir, etc. Ça peut, de ce point de vue, être un peu...
Et remobiliser
remobiliser contre lui. Et puis, par la force des choses, puisqu'il se présente lui-même comme le vainqueur, il va attirer, évidemment, toutes les flèches de tous les autres.
C'est déjà le cas.
Non, parce qu'on parle, on attaque beaucoup Macron, par exemple, en ce moment. Mm. Bon, c'est pas lui qui sortira vainqueur des élections européennes. Donc, c'est, il peut y avoir un changement de cible.
On est à 54 jours des élections européennes. Il se voit déjà trop beau, trop fort, Jordan Bardella, Rosine Bachelot.
Il y a une erreur d'abord démocratique. Les élections, elles ont un but chacune. C'est de désigner, en ce qui concerne les élections européennes, des parlementaires au Parlement européen sur un programme européen, sur un programme de politique européenne. Premier élément. Deuxième élément, la dissolution, elle est à la main du président de la République, c'est une prérogative du président de la République, c'est pas quelque chose qui est un geste anodin pour simplement changer de majorité. Troisième élément, si on veut faire les choses dans l'ordre et par rapport aux élections présidentielles, il y a la caractéristique des élections européennes, c'est des élections où il y a beaucoup d'abstention. Donc, par définition, tirer des élections européennes un avis démocratique sur le reste de la politique française, c'est extrêmement hasardeux, parce qu'il est très probable que sur un enjeu strictement national, la mobilisation des électeurs serait beaucoup plus importante. Il y a pratiquement un écart de 25 points entre les gens qui votent aux élections européennes et les gens qui votent aux élections présidentielles. Enfin, quatrième ou cinquième considération, rangs, je ne sais plus où j'en suis, on s'aperçoit que, et c'est d'ailleurs dommage, les gens, les citoyens, expriment souvent, ils considèrent que les élections européennes, c'est moins important, et ils ont des votes...
C'est un peu défouloir.
Un peu défouloir. On voit, par exemple, moi j'ai repris le résultat des Verts. Alors, écoutez, c'est vraiment les montagnes... Je n'ose pas dire en ce moment les montagnes russes, mais on va passer de 16% avec Cohn-Bendit, puis 13% avec Jadot, 13,85% avec Jadot, aux élections européennes, aux élections présidentielles, deux ans, trois ans après, il fait plus que 4%.
Enfin, c'est pas vrai que le Rassemblement National, parce que le Rassemblement National est assez constant dans ses bons résultats.
Voilà, ils sont à peu près entre 21 et 23.
Mais là, s'ils font 30, il y aura une poussée.
Voilà, il y aura une poussée. Non, mais c'est pour dire que les élections européennes, c'est des élections assez mobiles. Quand on met tout ça...
Oui, mais d'accord, enfin, Alain, ce sont des élections intermédiaires. En général, elles sont mauvaises pour le pouvoir en place, c'est assez classique. Oui. Néanmoins, le président est impopulaire. À l'Assemblée, il n'y a toujours pas de majorité. Si en plus, sa liste, celle qui défend, est 10 à 15 points derrière Bardella, et peut-être même cette liste est doublée par Glucksmann, on ne pourra pas dire le soir des élections, circuler, rien à voir.
Non mais ça, je suis complètement d'accord.
Il y aura forcément des conséquences politiques.
Oui, bien sûr. La seule chose, c'est que Bardella, il démontre que ce qui l'intéresse dans les élections européennes, c'est la conséquence nationale. Et qu'au fond, l'Europe, il n'a rien à
cirer. Il n'en a rien à cirer.
C'est pas du tout son sujet.
Oui, il veut nationaliser l'élection.
Oui, c'est ça. Et il veut se concentrer sur l'Assemblée nationale. On voter aux élections européennes pour savoir ce que sera la prochaine Assemblée nationale. Bon, il a le droit de penser ça et de le dire. Mais enfin, c'est quand même un peu tordu, quoi. Cela étant, là où je vous suis tout à fait. Si les résultats... Bon, mais pour l'instant, Emmanuel Macron n'est pas encore rentré du tout en lice. Mais si les résultats étaient ce qu'ils sont aujourd'hui, évidemment, il y aurait des conséquences politiques d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait inciter les uns, en tout cas forcément le Rassemblement National, à voter une motion de censure, peut-être décider des Républicains à le faire. Je dis peut-être, parce qu'avec les Républicains...
Avec les résultats des Républicains...
On ne sait jamais sur quel pied ils sont.
Bon, oui.
Ça sera un choc. S'il y a un choc, il y aura des réactions. S'il y a des réactions, on ne peut pas exclure que ça se termine par une dissolution. Si c'est une dissolution, il est infiniment vraisemblable que dans ces conditions-là, ce serait le Rassemblement National qui tirerait les marrons du feu et qui aurait le premier groupe parlementaire, donc le gouvernement.
Mais...
Donc Jordan Bardella à Matignon.
Mais exactement,
c'est ce qui s'est passé.
Mais d'ailleurs lui-même s'est autoproclamé candidat pour Matignon.
C'est ce qui s'est passé en 97 et il peut y avoir une cohabitation. Mais quelle cohabitation?
Quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron de dissoudre s'il sait qu'il perd?
Quel est l'intérêt?
Il n'aura aucun intérêt.
L'intérêt, ce sera de dire j'ai tenu compte, j'ai écouté le peuple. Ouais. C'est un intérêt démocratique.
Oui. Et puis, il peut y avoir un pari très incertain, par principe. Il peut y avoir un pari, c'est que c'est Jordan Bardella qui devient Premier ministre, dans des conditions qui sont quand même pas des conditions faciles, ni sur le plan économique, ni en ce qui concerne la sécurité, ni en ce qui concerne la situation internationale. On peut pas exclure que, puisqu'il resterait 3 ans, on peut pas exclure qu'en 3 ans, il se casse la figure.
Oui, mais enfin, vous savez très bien qu'un président de cohabitation n'a plus aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron accepterait de terminer son mandat.
Jospin, il a une majorité.
Pour inaugurer les chrysanthèmes.
Est-ce que le Rassemblement National aura une majorité?
Il aura une majorité, lui aussi, relative.
D'accord, mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'aura pas beaucoup de pouvoir. Jacques Chirac n'en avait plus, François Mitterrand non plus. On sait bien que dans ce cas-là.
Non, ça n'est pas du tout ça que je vous dis. Je ne vous dis pas ça va renforcer Emmanuel Macron. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit quelque chose de différent. Je dis, il peut très bien devenir Premier ministre Jordan Bardella dans ces circonstances et que, compte tenu des circonstances, ça se passe très
mal. Mais pour Emmanuel Macron, ça ne change rien.
Et que ce sera une cohabitation merdique. Il y avait des cohabitations qui étaient avec un Premier ministre qui avait une majorité et le pouvoir exécutif se déplaçait de l'Élysée à Matignon, c'est arrivé avec Balladur,
avec Chirac
en 86
et avec Jospin
en 97. Absolument. Les choses étaient simples. Là,
et avec des présidents qui voulaient se représenter et qui ont profité aussi souvent de cette cohabitation voilà. pour se refaire
là,
une
vous avez une cohabitation, quand on regarde les chiffres, on se dit, si ça ne bouge pas, hein, le dernier sondage qui vient de sortir met le Rassemblement National à 32,5 et Mme Hayé à 17,5 et le PS à 11,5. Glucksmann, l'écart reste quand même important entre la Renaissance j'appelle le PS. Hein. Donc là, on voit qu'en aucun cas, le Rassemblement...
Si c'était le PS, à mon avis, le score serait inférieur. Je pense que c'est plutôt Glucksmann que le PS.
C'est sans doute. Mais vous connaissez ma bienveillance, alors.
Oui.
C'est ça.
Elle est
légendaire.
Elle est célèbre.
Mais comment vous expliquez que dans les sondages, on a un Bardella qui pourrait faire quasiment 10 points de plus que la dernière fois, ce qui n'est pas
rien. Oui, oui, oui.
Et une Valérie Hayé, alors la dernière fois, c'était pas elle, mais qui conduit la liste Renaissance, qui serait quand même 13 ans en deçà du résultat d'Emmanuel Macron, la liste macroniste il y a 6 ans.
Il faut se rappeler justement la dernière élection européenne. La dernière élection européenne, ce qui a permis à la liste Renaissance de remonter, etc., c'est quand Emmanuel Macron lui-même a fait campagne. Hein. Et là, c'est théoriquement ce qui commence la semaine prochaine.
Bon, pardon, priorité au direct, Alain, puisque nous sommes avec Marine Le Pen, en direct de La Réunion.
Discours sur l'autorité, comme le dit une réflexion populaire, je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache.
Voilà. Est-ce que vous reconnaissez des qualités quand même à Matignon ?
Ah, il a des qualités de communication, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été successivement porte-parole du parti, puis porte-parole du groupe, puis porte-parole du gouvernement. Il est maintenant porte-parole du président, mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et pour l'instant, on a vu véritablement aucune mesure mise en œuvre avec une quelconque efficacité.
Autre question, Jordan Bardella a annoncé...
Du courant d'air, là.
Ah, ça sera rapide. Jordan Bardella a annoncé vouloir réclamer une dissolution au chef de l'État le soir du 9 juin s'il arrive en tête aux élections européennes. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Est-ce que vous aussi, vous appellerez Emmanuel Macron à une dissolution le soir du 9 juin ?
Oui, je pense qu'Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités. Je ne cesse d'entendre des journalistes dire « c'est un président qui prend ses risques ». Moi, je ne l'ai jamais vu prendre le moindre risque. À partir du moment où il subit un échec électoral, si tant est que cet échec électoral intervienne, oui, bien sûr, il doit en tirer les conséquences et il doit dissoudre l'Assemblée nationale pour que la représentation nationale soit à l'image, en réalité, de la volonté du peuple français.
Pourtant, je comprends que vous n'y croyez pas du tout.
Non, je n'y crois pas beaucoup parce que, encore une fois, je n'ai jamais vu Emmanuel Macron prendre le moindre risque.
Il ne doit pas écouter le message des urnes ?
Ah si, il doit le faire, mais il ne le fera pas.
On va aborder un peu la question de la Réunion. Vos opposants principaux critiquent Bardella sur son bilan, son premier bilan à l'Union européenne. Concernant son manque d'intérêt vis-à-vis des régions ultra-périphériques, quel regard vous posez sur ce bilan sur ces 5 dernières années ?
Alors, d'abord, il a un bilan au Parlement européen qui est bien meilleur que la plupart de ceux qui le critiquent, comme d'ailleurs c'est le cas du groupe Rassemblement National, qui est le groupe de députés français qui a déposé le plus d'amendements, qui a fait le plus d'interventions. Alors évidemment, il y a un certain nombre de responsabilités qu'on n'a pas, et pour cause, puisqu'ils ont mis en place un cordon sanitaire, ils nous ont empêchés d'en avoir. Donc après, ils nous reprochent de ne pas avoir eu de responsabilité. Quant aux régions ultra-périphériques, permettez-moi de vous dire que pour éviter d'être en concurrence avec Jordan Bardella, Jordan sait pertinemment que j'y apporte une attention toute particulière, et ce depuis de très nombreuses années. Et disons qu'en quelque sorte, c'est moi qui suis chargé de la défense de l'outre-mer, ce que je fais régulièrement à l'Assemblée nationale, ça ne vous a pas échappé.
Il y a quelques crispations chez
Voilà, ça c'est Marine Le Pen qui est interrogée par Sophie Dupont pour BFM TV, qui est revenue donc sur ce que disait Jordan Bardella ce matin, la dissolution de l'Assemblée au soir des résultats de l'élection européenne, si jamais la liste Bardella est largement en tête. Donc elle dit effectivement, il faut qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron prenne ses responsabilités.
Elle dit même qu'il doit dissoudre. Alors en fait,
encore c'est... heureux qu'elle dise la même chose que la tête de bon, liste.
Mais
de son mouvement.
La Constitution dit que c'est le président qui décide ce qu'il doit faire.
Bien sûr.
Et qu'il est le seul à pouvoir décider de la dissolution.
Mais qu'est-ce qu'il pourra faire s'il ne dissout pas ? On prend le dernier sondage. Après, soyons prudents. La campagne, elle ne fait que démarrer. Mais si Bardella finit à 32%, Valérie Ayer à 17-18, donc très loin derrière, est-ce qu'il peut faire comme s'il ne s'était rien passé ?
Il peut faire.
Ou est-ce qu'il doit changer de Premier ministre ?
Il y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse dans laquelle, je n'y crois qu'à moitié, mais enfin, je ne l'exclus pas non plus, dans laquelle il trouverait un arrangement avec les Républicains sur un certain nombre d'objectifs. Et à ce moment-là, en élargissant un gouvernement...
Il arrive à avoir sa majorité.
Bon, je ne vous dis pas que ça se fera. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Mais c'est possible, en tout cas. Bon, il y a une deuxième hypothèse qui est de changer de Premier ministre. Bon, ça serait...
Ça n'a jamais servi à rien.
Ça ne sert à rien, et en plus...
Il y a Gabriel qui fête ses 100 jours, cette semaine.
Justement, et en plus, ça serait plutôt une défaite pour le président qui l'a choisi que pour le Premier ministre qui a été choisi.
Donc Gabriel Attal ne risque rien.
Donc, je ne dis pas qu'il risque rien, mais je dis que s'il était remplacé, celui qui en serait la victime, celui qui perdrait dans l'histoire, c'est Emmanuel Macron qui l'a choisi et pas lui qui partirait. Bon, mais il y a la troisième hypothèse, effectivement, qui est de décider de faire une dissolution dont on connaît non pas le résultat, mais la probabilité qui est que le Rassemblement National arriverait en tête et donc, pour le coup...
Sans forcément avoir de majorité absolue.
Mais toute probabilité, n'ayant pas de majorité absolue, mais ayant suffisamment d'avance sur les autres groupes parlementaires pour qu'il soit naturel de lui proposer de diriger un gouvernement. Donc il y a au moins trois hypothèses.
Moi je dis, si j'avais à conseiller le président de la République, c'est d'enjamber ce scrutin disant c'est un scrutin européen.
Il s'engage
ne rajoutons
beaucoup.
Pas. Je dis pas que je dis mon scénario.
Oui, bien sûr.
Ne rajoutons pas le désordre au désordre. La dissolution amènerait une assemblée absolument ingouvernable qui mettrait le pays dans le chaos. Je rappelle que quand on a fait une dissolution pendant un an, on ne peut pas en faire une autre. Emmenant des personnes qui sont justement au moment où la guerre est en Ukraine, en Europe, sont des gens qui sont accusés à raison de collusion, de faiblesse vis-à-vis du pouvoir russe. Et donc, moi, je veux la sécurité des Français. Je parle comme si j'étais Emmanuel Macron. Je veux la sécurité des Français. Je ne veux pas rajouter le désordre au désordre. Il y a des moyens dans la Constitution de pouvoir faire adopter les textes fondamentaux qui sont les textes budgétaires. Et la revoyure, elle est aux élections présidentielles de 2027.
Oui, mais Roselyne Bachelot,
c'est la solution du bon sens.
Non, parce que ce scénario, d'accord, mais dans ce cas-là, il ne faut pas que le président s'engage dans cette campagne et qu'il n'engueule pas ses ministres qui n'en font pas assez, parce qu'ils poussent tous les ministres, et notamment le premier d'entre eux, Gabriel Attal, à s'engager dans la campagne des européennes. Donc lui aussi il nationalise. Votre scénario ne tient plus. Il nationalise lui-même comme Bardella campagne.
Moi, je n'ai jamais connu un premier ministre s'engageant pas dans une campagne présidentielle.
Donc quelle responsabilité de ceux qui nous gouvernent
européen,
s'il y a échec, ça sera aussi l'échec du gouvernement.
Le scénario, il marche très bien.
Mais les présidents aussi s'engagent dans les campagnes européennes.
Donc s'il y a un échec, ça sera aussi l'échec d'Emmanuel Macron.
Pour ne prendre qu'un exemple, rappelez-vous François Mitterrand faisant un débat avec Philippe Seguin au moment
avec l'attentat à oxygène.
Au moment du référendum de Maastricht.
C'est-à-dire maintenant à l'euro. Lui-même.
Oui, non, mais...
Il défendait son référendum. Ouais.
Non, mais d'accord, mais ça veut dire que des présidents qui s'engagent, c'est l'habitude. De toute façon, il y a 5 ans, Emmanuel Macron, pour les élections européennes, s'était totalement engagé. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait permis à sa liste non pas de faire des étincelles, mais d'être à un bon niveau.
22-42.
Bon, là, il va s'engager, évidemment. Ça fait aucun doute.
Excusez-moi, mais j'y vois une certaine contradiction. Rosine me dit qu'il doit enjamber, mais en même temps, il doit s'engager. S'il s'engage, soir du résultat, si le résultat est mauvais pour Valérie Ayer, on dira façon, Emmanuel Macron a perdu.
Mais toute façon, donc, qu'il s'engage ou qu'il ne s'engage pas, donc on dira le résultat est mauvais.
Donc, et politiquement, il devra forcément faire quelque chose. Il ne pourra pas faire comme si de rien n'était.
Je vous ai proposé 3 hypothèses et immédiatement...
Je revenais sur le scénario de Rosine Bachelot.
Roselyne, on a donné une 4e qui est beaucoup plus intéressante. Donc il y a vraiment un choix, puisqu'il y a 4 hypothèses.
Et vous savez très bien que dans vos hypothèses, la dissolution ne sera pas retenue.
Bah, évidemment,
non. Mais ouais, non, mais c'est une hypothèse qu'on.
Non, mais je ne sais pas.
Emmanuel Macron.
Mais je ne sais pas. Parce que Emmanuel Macron.
Non, mais vous en rêvez pour faire de l'audience. Non,
pas
non.
du tout.
Non, mais Emmanuel.
C'est... Moi, je trouve que c'est pas scandaleux de revenir au peuple.
Non, mais.
Bah non, on voit bien quand même, pardon, pour terminer là-dessus, on voit bien quand même que Emmanuel Macron est empêché dans sa politique depuis qu'il a été réélu avec ce manque de majorité. Bah, il peut pas réformer.
Ce sera encore pire.
Il peut pas réformer, vous voyez bien. Enfin,
bah,
la réforme des retraites, ça s'est fait dans un chaos le plus total. La loi immigration, il y a des compromissions.
Non, mais ça s'est fait quand même. Non, mais je vous dis pas que ça s'est bien fait, je ne vous dis pas que c'était.
Vous savez très bien, Alain, qu'il n'y aura plus de grandes réformes d'ici la fin du quinquennat. Oh, Alain.
Bon, des réformes.
Ben, structurelles.
Si, il y a une.
Je ne vous parle pas de la fin de vie, parce que la fin de vie, c'est différent.
Non, la fin de vie, c'est quand même important, mais c'est pas du tout ça que j'allais dire. Il y a peut-être une réforme qui peut se faire, en tout cas un changement de fond très important qui peut se faire, c'est à propos de la gestion des finances publiques.
Ouais, c'est ça,
très possible que pour les 3 ans qui viennent, il y ait pour le coup, comme on est dans une situation qui n'est pas banale, qui n'est pas confortable, c'est très possible qu'il y ait des décisions qui soient très différentes celles qui se sont faites jusqu'à maintenant.
Bon, on verra donc le soir du résultat.
Non, mais est-ce que je vous ai répondu?
Parfaitement.
Bon,
comme d'habitude. La boule de cristal est là.
Comme d'habitude. Merci à tous les deux.